est 11h, vous êtes sur Fréquence Mistral dans la première émission en direct consacrée à la 20e émission des correspondances Manosque La Poste. Émission présentée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour James, bonjour à tous et c'est un bon anniversaire qu'on va souhaiter aux correspondances. Et oui, vous le savez, comme chaque année, lors des correspondances, il y a une émission spéciale pendant une heure avec des invités, surtout des auteurs, mais aussi des comédiens, des acteurs du territoire manosquin et bien sûr des responsables des correspondances. Et aujourd'hui, nous avons trois invités. Comme d'habitude, nous avons le directeur des correspondances qui nous accompagne, notre ami Olivier Chaudançon. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Nous allons évidemment marquer d'une pierre blanche cette 20e édition des correspondances avec vous et puis avec tous vos amis et bien sûr les invités des correspondances. À nos côtés également Jacques Méni, le président de l'association des Amis de Jean Giono. Jacques, on est dans le pays de Giono, donc évidemment nous allons parler de ce grand écrivain. Bonjour Jacques.
Oui, puis qui a écrit beaucoup de aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis quelqu'un qu'on entend rarement, mais qu'on voit souvent, de par sa taille et de par son métier, il est l'œil et le témoin des correspondances et il propose cette année, dans le cadre de ce 20e anniversaire, une exposition magnifique qui retrace toutes ces éditions. Il s'agit de notre ami le photographe François-Xavier Emery. Bonjour François.
Bonjour François.
À tout à l'heure. Olivier Chaudançon, c'est la 20e édition des correspondances, 20 ans déjà.
Et oui, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis largement aussi surpris que tous les autres.
20 ans qu'une petite poignée de personnes est venue présenter à Manosque un projet un peu particulier de rencontres à la fois littéraires, musicales, des happenings, des choses très très différentes, diverses, dont on n'avait absolument pas connaissance ici même, et en plus un principe qui perdure, celui des écritoires, c'est-à-dire favoriser l'écriture de l'être qui rejoint et qui rassemble les êtres humains entre eux. C'était un beau projet et 20 ans déjà.
Oui. Alors il faut dire qu'à l'époque, c'est vrai qu'un événement littéraire, c'était principalement un salon du livre, c'est-à-dire un vaste espace dans lequel 300, 400 auteurs signent des livres avec des stands de librairie, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, avec Olivier Adam en particulier, on se disait qu'il y avait sans doute d'autres manières d'organiser la rencontre entre le public et la littérature, et peut-être traiter la littérature un peu plus comme une matière artistique, comme un art vivant, la faire entendre, et donc très vite, on a commencé à imaginer d'autres formes. Alors des formes très classiques, des entretiens, des débats, mais peut-être en les faisant plus volontiers dans l'espace public pour que les gens voient qu'il se passe quelque chose autour de la littérature. Et puis surtout mettre l'idée de lecture en avant, faire entendre le texte et non pas simplement le commenter. Et à partir de la lecture, ça peut être par l'auteur lui-même, s'il en a le goût, mais ça peut être aussi par un comédien, ça peut être par des musiciens qui viennent dire de quelle façon ils sont traversés de littérature. Et puis ces écritoires, en effet, que la littérature, que l'écriture, que la lecture investissent l'espace public et le transforment pendant quelques jours. Voilà comment imaginer un festival littéraire, et c'était à une époque où ça n'existait pas en effet.
Et à Manosque, donc, on a été surpris à la fois par ce chambardement et en même temps, je dois dire, séduit. Séduit parce que quand on a la possibilité d'écouter un Jonathan Little, par exemple, qui sera goncourable quelques jours après sur la place de l'Hôtel de Ville à Manosque devant 400 personnes, quelques années après, on a quelqu'un comme Annie Ernaux, par exemple, qui se frotte à ce même exercice très particulier. Quand sur scène, il y a Jacques Gamblin, comme ce soir, par exemple, vous allez en parler, Olivier. Quand il y a des musiciens à découvrir, quand il y a des auteurs à croiser dans la rue, discuter tout d'un coup avec Alain Mabankou ou Eddie Cadour, c'est un bonheur fou que vous nous apportez aussi. Tiens, bonheur fou, Jacques.
Oui, oui, bah ouais.
Moi, je crois que c'est le fil rouge de l'émission. On doit faire des citations, Giono, sans le dire.
Ouais, c'est ça, ouais. Et par-dessus la colline, en plus. C'est bien, on va continuer. Bon, à part ça, Olivier, non, c'est un apport particulier que vous apportez à cette ville.
Non, mais c'est un plaisir aussi de voir le bonheur que ça semble donner aux gens, grands lecteurs et lecteurs occasionnels, parce que c'est avec l'intention de ce festival, c'est aussi d'aller à la rencontre de ceux qui ne sont pas toujours familiers avec la littérature, d'où justement ces écritoires qui sont des installations éphémères et qui intriguent, et puis ça donne sans doute envie de s'y installer, d'écrire une lettre, en effet, puisqu'on est quand même parti de la correspondance au sens épistolaire, et puis une fois qu'on a écrit une lettre, on a sans doute un peu plus envie d'aller écouter l'écrivain qui lui est confronté avec régularité, avec la difficulté d'exprimer le plus précisément possible ce qu'on a envie de dire. Voilà, donc moi je l'ai vécu aussi comme un spectateur, c'est-à-dire en faisant des tentatives, c'est une sorte de laboratoire permanent, et le plaisir est de constater à quel point ça marche et ça produit surtout des effets de rencontre entre le texte et le public, c'est ça qui importe.
Quand il dit « ça marche », figurez-vous que celui qui marche beaucoup aussi pendant les correspondances, c'est Olivier Chaudançon, parce qu'il essaye de vérifier si tout se passe bien et en même temps d'essayer de prendre un petit peu de plaisir à la place d'Herbès, où il y a une rencontre, puis à Jean le Bleu, où il y a encore une soirée, puis à un autre endroit où il y a un happening littéraire très spécial. Vous avez créé autour de vous, Olivier, et ça c'est un très bon point, comme une espèce de galaxie des correspondances. À mes côtés, il y a Jacques Méni, mais il y a d'autres associations, il y a Éclat de Lire, il y a les Éditeurs du Sud, il y a toute cette dynamique qui trouve un petit peu son compte et qui apporte aussi quelque chose aux correspondances.
Oui, c'est aussi un motif de satisfaction au sens très large du terme. Je crois que ça a créé, le mot exact, une dynamique. Je pense que le festival de littérature jeunesse mené par Éclat de Lire a grandi plus aisément en ayant cette idée de ville des correspondances. Je crois que nos auteurs, nos écrivains en résidence durant l'année vont aussi irriguer le territoire, celui de Manosque, mais le territoire alentour aussi. Voilà, donc on est dans cette idée de Manosque, ville du livre, qui coule de source si on se tourne à nouveau vers le souvenir de Giono, qui était l'égide culturelle de la ville au moment où les correspondances s'y sont installées. Ça permet de saluer le maire de l'époque, Robert Ronde, qui avait tenté ce pari, qui était de nous accueillir sur un projet qu'on avait énoncé, mais dont on ne savait pas exactement les contours et les chances de réussir. Voilà, oui, non, je crois que ça fait du bien à tout le monde. C'est peut-être pas un hasard si il y a deux librairies dans cette ville de taille moyenne. C'est pas le cas partout dans des villes comparables. Enfin, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que je pense que c'est plutôt bénéfique pour pas mal d'acteurs littéraires, ça va de soi, mais même culturels.
Deux librairies plus que fréquentables, vous vous en doutez, qui sont le Poivre d'Âne et le Petit Pois. Et cette année, il y a une petite nouveauté aussi, c'est qu'il y a une incursion au Bleuet à Bannon avec Marc et Isabelle Gaucheran qui ont repris de main de maître cette magnifique librairie. Et c'est Anne-Marie Gara qui sera présente, me semble-t-il, au Bleuet.
Oui.
Donc on va être à l'ouest et encore plus à l'ouest.
À l'ouest, on va tâcher aussi de marcher droit. Mais...
C'était un clin d'œil sur son livre, vous l'avez bien saisi.
C'est Grand Nord.
Donc on sera très attentif à cette dynamique et en même temps on va en profiter. Pendant 4 jours, Manosque va vivre au rythme des correspondances, avec un petit moment d'émotion particulier parce qu'il nous a quittés cette année et il avait participé à la première édition des correspondances dans une ambiance assez incroyable. C'est Jacques Higelin. Jacques Higelin qui sera célébré sur scène.
Oui, mais c'est vrai que c'était une des premières soirées mémorables des correspondances, la première édition, la deuxième soirée de la première édition pour être précis. Il s'agissait pour lui de lire son livre, La lettre d'amour d'un soldat de 20 ans. Il n'avait jamais fait l'exercice, il avait vraiment le trac. L'équipe du théâtre m'a affirmé qu'il était à deux doigts de ne pas monter sur scène tellement il avait la trouille de ce qu'on lui avait demandé de faire. Et puis il est monté, et puis il a commencé à lire, et puis il se trouve qu'il y avait un piano sur scène. Alors ça, c'était
un
coup monté de notre part, en se disant normalement l'animal ne résiste pas à la vue d'un bel instrument. Et évidemment, ça s'est produit, mais au-delà de nos espérances, il a lu, il a chanté, il a digressé, il a parlé, il a raconté des histoires au public, et cette lecture qui devait durer une heure a duré 4 heures. Et là, après coup, on s'est dit, oui, c'est peut-être l'acte fondateur du festival, celui qui restera dans les mémoires, qui montre que le festival tient quelque chose et nous emmène ailleurs. Alors évidemment, quand j'ai appris sa disparition, et que les 20 ans se profilaient, je me suis dit, tiens, essayons de non pas faire un hommage institutionnel, mais remettre en vie ce texte exceptionnel et donc convoquer à nouveau la figure d'Higelin. Ce sera fait avec Mathieu Amalric et un magnifique musicien, Mahu, percussionniste mystérieux, qui a longuement accompagné Higelin et puis d'autres, Lavillier, Barbara. Et en plus, il se trouve que Mahu m'a avoué qu'il était dans la salle du théâtre Jean le Bleu il y a 20 ans pour écouter Jacques. Voilà, donc il y a une vraie cohérence. Et puis dernier signe, dernier clin d'œil, Arthur Higelin, qui est déjà venu aux correspondances, sera en clôture du festival et interviendra dans le Live Magazine dimanche à 18h.
Nous aurons l'occasion de développer cette idée du Live Magazine avec Evelyne Bravidelot prochainement sur notre antenne. Et puis aussi, et j'en suis très heureux, on va pouvoir recevoir aussi Mahu ici même pour parler de ses fréquentations musicales, vous l'avez dit, du Bollinge qu'il a accompagné, et puis bien sûr de cette soirée de 99. D'autres temps forts, évidemment, on entendra le programme, Olivier, tous les jours sur notre antenne, comme d'habitude, mais ce soir, ça démarre.
Ce soir, ça démarre, et avec des signaux, évidemment, c'est la 20e, on a essayé d'être un peu facétieux, ou en tout cas saluer des figures qui ne peuvent pas être absentes du festival. Donc on va commencer avec Jean Giono, hein, désolé, on a un peu triché, évidemment, pour faire cela. Des comédiens qui mettent en place des grands entretiens, c'est-à-dire ils vont dans les archives audiovisuelles, ils remettent la main sur des entretiens de grands auteurs et ils les mettent en voix, ils parlent comme s'ils étaient l'auteur. Alors, sans être dans l'imitation, ils sont quand même un peu dans la prosodie, dans la musicalité de la prononciation. Et donc, on va avoir ce drôle de truc qui est d'assister à un entretien avec Jean Giono, place de l'Hôtel de Ville, en ouverture du festival. Voilà, alors, bah, c'est bon. Écoutez, vous verrez, c'est surprenant, je pense que ce sera fort. Et puis, pour la soirée, nous avons voulu deux artistes qui ont fortement marqué l'histoire du festival. Jacques Gamblin, qui est sans doute le comédien qui est venu le plus souvent. Il est venu 7 fois, si je ne me trompe pas. Il était déjà là pour nos 10 ans. Il a toujours fait des lectures assez exceptionnellement intenses. Il est toujours, comme il le dit, dans la lecture soutenue, il y a toujours quelque chose. Donc on avait vraiment à cœur d'ouvrir avec lui. C'est lui qui a eu l'idée, donc il a l'air de trouver ça compliqué, mais maintenant il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il a eu l'idée de prendre 20 lettres qui parcourraient comme ça l'histoire du festival. Et puis, en deuxième partie de soirée, un autre artiste important à nos yeux, qui est Dominique A. C'est notamment avec lui qu'on a travaillé sur ces croisements entre musique et littérature. Sa présence à Manosque lui a fait rencontrer beaucoup d'écrivains. Ça lui a donné l'idée à un moment de faire un disque, et puis il y aurait un livre en pendant fait de nouvelles portant le même titre que ses chansons. Depuis lors, il est devenu écrivain et publie son 3e ou 4e livre, je ne sais plus. Voilà, des figures emblématiques de l'histoire du festival et de comment le festival fertilise un peu le territoire artistique et les nouveaux territoires artistiques.
Olivier, vous avez eu l'élégance, nous sommes ici dans la cité de Giono, vous avez eu l'élégance de ne pas signaler le deuxième entretien qui aura lieu tout à l'heure sur la place de l'Hôtel de Ville et qui concerne un petit peu un personnage ô combien important dans notre société, mais très 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 différent, tiens, j'en rajoute un, très différent de Jean Giono, il s'agit de Simone de Beauvoir. Et c'est vrai que de croiser ces deux personnages tout d'un coup par comédien interposé, ça peut être assez paradoxal et en même temps intéressant sur la place de Manosque. C'est tout à l'heure à 18h sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est bien ça?
Oui, alors, je précise quand même qu'il ne s'agit pas de les faire dialoguer, hein. C'est successivement deux entretiens, comme si nous étions à apostrophe, mettons, et que Pivot a invité Giono, et puis ensuite Simone de Beauvoir. Voilà, on va assister à ça successivement. Et puis Simone de Beauvoir, évidemment, son œuvre est importante, sa figure littéraire et militante est importante. Et puis j'ajoute que ça a aussi une cohérence, puisque samedi soir, nous ferons entendre les lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algren par deux comédien fétiche aussi des correspondances, parmi les meilleurs lecteurs que je connaisse, Laurent Poitrenau et Dominique Raymond.
Des moments certainement forts que vont vivre les spectateurs du théâtre Jean le Bleu, comme chaque fois que Laurent Poitrenau ou Dominique Raymond sont sur scène, et pour des textes, pour magnifier en plus des textes superbes. Ça, ce sont les soirées. Et puis, dans la journée, il y a beaucoup d'animations à Manosque, on l'a dit tout à l'heure, avec les écritoires. Toujours l'ami Jean Lautré qui réalise ces magnifiques écritoires.
Toujours l'ami Jean Lautré, là il y aura comme chaque année quelques nouveautés, notamment une enveloppe géante à l'intérieur de laquelle on pourra entrer pour écrire.
Et puis mais de temps à autre, complètement timbrés ici. Hein.
Oui, voilà, ouais, mais affranchi ouais. Aussi de toute
c'est vrai,
toute
c'est
limite.
Vrai.
Jean Lautré, j'allais juste ajouter un mot qui fait l'essentiel de nos écritoires, mais il y a aussi quelques artistes qui viennent en renfort, et notamment un artiste marseillais qui s'appelle Olivier Lubeck et qui depuis 2 ans met en place un magnifique écritoire à vertige devant le Conservatoire de Manosque. Je vous incite à y jeter un coup d'œil. Ça transfigure cette place qui est déjà assez belle depuis qu'elle a été restaurée. Je trouve que ça crée, en effet, c'est bien trouvé, un sentiment de vertige épistolaire.
Je les avais interviewés avec Lise Cousinier, qui est son bras droit pour cette opération, et c'est vrai que ça incite à la rêverie, tous ces miroirs très particuliers qui réfléchissent dans les deux sens du terme. Olivier, vous restez avec nous. Il y a une chose très importante aussi dans le cadre des correspondances, c'est qu'il y a un côté mémoriel, mais pas nostalgique. Pas du tout. Et là, c'est la photo qui joue ce rôle. C'est François-Xavier Emery qui expose des tas de rencontres avec des auteurs, avec des artistes, mais aussi avec le public manosquin, François. C'est ça, au Centre Giono.
Oui, tout à fait. Là, pour l'exposition, c'est au Centre Giono et c'est ouvert à tous depuis mercredi dernier. Voilà. Et voilà, c'est. Alors moi, j'étais un peu, parce que de revisiter ces archives, je me demandais qu'est-ce que je pouvais mettre comme photo. Voilà, puis comment le spectateur pouvait se retrouver dans ces photos, surtout dans la manière comme je les ai présentées, donc une espèce de fresque, une frise plutôt, qui parcourt tous les murs de la salle d'exposition. Et voilà, alors pour la petite histoire, quand samedi j'étais en train d'accrocher encore les dernières choses, il manquait les noms sous les auteurs que j'ai photographiés, il y a des gens qui sont rentrés comme ça, qui étaient en cure à Gréoux, et ils ont visité l'exposition. Et ils connaissaient absolument pas les correspondances, pour eux c'était tout à fait, ils étaient étonnés de voir cette exposition, et donc ils ont tenu à regarder cette exposition, et je les entendais parler. Ah oui, lui, je le connais, je l'ai déjà vu, tout ça. Et ils sont venus vers moi en disant, mais c'est vraiment super de voir ça, et puis de voir qu'il y a ça à Manosque, c'est précieux, quoi. Il faut, et c'est bien de le montrer.
Alors, vous l'avez dit, François-Xavier, il y a cette frise particulière qui nous permet de suivre un cheminement, soit à l'endroit, soit à l'envers, tout dépend comment vous prenez dans le sens de la lecture. Et puis, au-dessus de cette frise où il y a des images prises sur le vif, dans les spectacles et puis dans la rue, il y a des portraits d'artistes, des portraits en pied, en noir et blanc, des portraits d'auteurs.
Tout à fait, c'est ce qu'on avait un petit peu, parce qu'au départ la commande c'était de faire un travail photo qui parle, qui retrace, qui garde une mémoire de chacune des éditions, et moi là-dedans j'avais envie de rajouter quelque chose, parce que je me disais il faut, parce qu'il y avait cette idée que comment les correspondances s'inscrivaient dans Manosque, c'était quelque chose qui suscitait des débats, et moi je me suis dit il faut que on ait une trace de ces auteurs qui viennent, parce qu'au départ c'était plutôt de photographier les auteurs, et de les mettre dans la rue, de les photographier dans la rue, parce que pour dire que voilà, c'est des auteurs qui sont à Manosque et qui sont là, qui sont accessibles.
Pas dans n'importe quelle rue, dans la rue de Manosque.
Dans la rue de Manosque, oui, tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs, il y a Éric Reinhardt qui, dans son petit texte, qu'il a rédigé pour Une nuit à Manosque, le petit livret qui est offert au, enfin qui est proposé au public
pour les 20 ans,
ouais. Donc lui il parle, il est très 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 heureux de Manosque, de découvrir Manosque, de se promener dans ces rues mystérieuses et tout ça. Et puis il dit à un moment, pendant les correspondances, les auteurs s'emparent du réel et de la rue. Et donc, et pour moi, ça a fait vraiment écho à ça, parce que c'était important de pouvoir montrer ces auteurs dans la rue, parce que c'est aussi une manière un petit peu symbolique, à ma manière, de dire que ben voilà, la littérature, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'accessible, c'est universel et que on le retrouve dans la rue.
Contrairement aux autres photos, qui sont des photos prises sur le vif, celles-ci sont posées. Comment vous procédez avec les auteurs? Par exemple, quand vous avez photographié Catherine Poulain, elle a voulu avoir son chien à ses pieds, par exemple. Robert McLiam Wilson, il est sur son 31 avec son beau gilet, etc. Et puis il y en a d'autres comme ça, évidemment, qui sont magnifiques. Comment ça se passe pour leur... Vous leur demandez de poser?
Oui. Bah, déjà, il y a une chose, c'est qu'il faut que j'arrive à les avoir. Donc, moi, j'ai
première difficulté.
Déjà, alors, comme j'ai pas une obligation de résultat, je ne photographie pas tout le monde. Pour la petite anecdote, pendant longtemps, j'ai jamais réussi à photographier ceux qui obtenaient le prix Goncourt. Donc, alors, je leur disais, attention, si vous êtes photographié par moi, vous aurez pas le prix.
Il faut pas aller photographier Thomas Reverdy, donc, hein. Attention, il est Goncourt.
Non, mais après, je me suis rattrapé. J'allais voir Fabienne Pavia, je lui disais c'est qui le prochain, peut-être que lui, tout ça. Donc je faisais un peu attention. Voilà, mais autrement, il faut que j'arrive à les saisir, hein, parce qu'ils sont quand même assez sollicités. Et puis c'est des gens qui sont photographiés régulièrement, et les séances de photos, c'est des choses qui sont parfois un peu fastidieuses, parce que c'est long, parce que il faut organiser. Et alors moi je leur disais non, tout, je vous promets, en 3 photos je fais la photo et vous vous mettez là et vous me regardez. Et voilà, et c'est comme ça que je photographie.
Ils peuvent choisir la porte ou la fontaine.
Voilà, on fait ça, c'est un travail que ça dépend des personnalités. Il y en a qui veulent être, qui se mettent à tel endroit. Puis moi, j'essaie justement, par rapport à Catherine Poulain, bah, effectivement, il y avait son chien et je trouvais que c'était bien.
Vous voulez que je vous dise, quand elle vient ici à la radio, elle vient aussi avec son chien.
Ouais, ouais,
et c'est une très belle chose. Ouais, et son roman, Le Cœur Blanc, on aura l'occasion d'en parler avec elle ici même. Olivier, quel beau roman encore, hein. Quelle écriture, Catherine Poulain.
Ah oui, donc, elle y va. Hein.
C'est vrai, oui.
Elle en a deux, mais les deux ont été vraiment très très marquants.
Oui, on aurait pu s'en douter d'ailleurs en lisant le premier, le Grand Marin. François, votre expo, elle est visible jusqu'à quand et comment?
Oh ben, il faut aller au Centre culturel et littéraire Jean Giono et au premier étage, à la grande salle d'exposition, et je crois qu'elle est accessible au public jusqu'au 15 octobre.
On peut même faire des petites devinettes, essayer de reconnaître qui sont sur les photos, non pas légendées qui sont les
auteurs,
les portraits en pied, mais les spectacles et toutes les manifestations dans la frise. Il fait combien de long, François, cette frise?
Je crois qu'elle fait 25 mètres à peu près, quelque chose comme ça. Enfin, par longueur, parce qu'il y a deux lignes, si on peut dire, et donc c'est 50 mètres.
50 mètres sur environ 10-15 centimètres.
12 centimètres.
Oui, j'étais pas loin.
Parce que c'était difficile, parce que moi j'avais envie de traduire ces correspondances. Et aussi, il y a aussi les premières photos qui sont pas de moi, qui sont de Aude Vincent, mais j'ai voulu absolument mettre parce que c'est elle qui a été le premier témoin à faire des photos des correspondances. Donc il y a une petite partie qui concerne les années 99 à 2003. Puis après, c'est moi à partir de 2004. Et j'ai voulu retranscrire ce qui pouvait faire la richesse et l'originalité, et ce qui était nouveau, ce qui faisait les correspondances. Donc il y aura certainement des frustrés, parce qu'il y en a qui sont déjà venus me voir et me dire « Oh, mais tu n'as pas mis...
» On va parler de frustration, voilà, justement. Voilà, François, tout à l'heure, j'ai dit qu'Olivier marchait beaucoup pendant les correspondances. François-Xavier Emery aussi, je confirme. Il marche énormément pour avoir justement ces témoignages photographiques. Et comme moi, d'ailleurs, vous avez quelques frustrations, parce que quand il y a 4 manifestations à Manosque, on peut pas suivre une manifestation en entier, un entretien ou un événement ou un spectacle. Et donc, comment on apprivoise ces frustrations chaque année?
Ben, c'est bon, je grappille mais à chaque fois j'ai donc j'avais ma préoccupation de faire la photo, de trouver le bon point de vue et tout ça, mais en même temps j'écoute et j'entends des choses et qui me donnent envie de retrouver ce qui est dit à travers les livres qui sont proposés, et ça m'arrive assez fréquemment, quoi.
Donc, mission accomplie. Moi, je suis pas un très grand lecteur, c'est bien.
Mais les correspondants, c'est mon panier.
Panier lecture. C'est bien, c'est une bonne chose. Pour moi aussi, un petit peu, Olivier, puisque je suis obligé de. Je suis tenu par honnêteté professionnelle de lire les œuvres des personnes que j'invite ici même, et c'est un grand bonheur pour moi, et de évidemment de temps en temps aussi d'aller dans des spectacles. Je vous propose une première pause avec un spectacle de quelqu'un qui est admiré par notre ami James, c'est Dominica, et c'est un des papas des correspondances. On va écouter Dominique qui est en concert ce soir à Manosque. Attention, c'est dans la petite salle. Il interprète Les Garçons Perdus. On se retrouve tout de suite après.
Tous ces garçons perdus ne rient jamais. Ils jettent des pierres, puis s'enfuient comme des loups, le soleil dans le dos. Tous ces garçons perdus ne rient jamais. Tous ces garçons perdus ne rient jamais. Ils sont là, et leurs yeux font barrage au mal que l'on pourrait leur faire. Tous ces garçons perdus ne rient jamais. Tous ces garçons perdus. Sont nos dieux enfuis, il faut qu'on les oublie ou qu'on les tue. Nos dieux nous ont trahis, nous sommes perdus. Comme ces garçons perdus, nous ne rions jamais. Comme ces garçons perdus. Nous ne rions jamais. Tous ces garçons perdus tiennent trop de nous. Tous ces garçons perdus tiennent trop de nous.
Les garçons perdus, Dominica qui est sur scène ce soir en clôture de la première journée à 22h30 très exactement à Manosque. Dominica que vous retrouverez aussi sur la place de l'Hôtel de Ville, ce sera demain à 18h. Il parlera littérature cette fois-ci, Olivier.
On essaie de toujours mélanger un peu les choses, donc le concert de ce soir, oui, le concert de ce soir est un concert littéraire, j'insiste, il vient pas faire son concert habituel, il va mélanger son répertoire de chansons et ses textes écrits sous d'autres formats. Et puis en effet, comme il y a ce livre qui sort, qui se nomme Ma vie en morceaux, qui est un récit de vie s'ordonnant autour de certaines chansons, certains titres de chansons, on avait aussi envie de lui donner la parole sur un format plus classique d'écrivain qui répond dans le cadre d'un entretien à son livre, qui parle de son livre et qui répond aux questions d'un animateur.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé évidemment de la soirée qui aura lieu jeudi soir, un hommage entre guillemets à Jacques Higelin, en tout cas on pensera fort à lui, et lui aussi pensera fort à Manosque, je pense, là où il est. Il y a aussi un autre hommage pareil, entre guillemets, un auteur fidèle des correspondances qui nous a quittés aussi il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Mathieu Riboulet. Et là, il y a une opération spécifique des correspondances de Manosque.
On aura un moment qui se nomme, en l'absence de Mathieu Riboulet, en effet, parce que c'est un auteur extrêmement précieux, une des plus belles écritures contemporaines que je connaisse, un style vraiment magnifique, à la fois flamboyant et sobre. Il est beaucoup venu aux correspondances, on l'a invité sur presque chacun de ses derniers livres, et on était évidemment très triste de sa disparition. Et plusieurs personnes, auteurs, artistes, ont eu envie de lui rendre hommage, donc dans un moment de lecture musicale, seront rassemblés Serge Renko, comédien, Barbara Carlotti, qui avait pour nos 10 ans d'ailleurs fait une chanson à partir
de textes de Mathieu Riboulet. Et nous
l'écouterons pendant nos...
Évidemment, nous écouterons les Italiens dans ces émissions.
Excellent
Olivier.
Choix. Et puis il y aura Maïlys de Kerendial, enfin voilà, tout un petit collectif qui avait envie de rendre un hommage vivant à Mathieu Riboulet.
Et nous, évidemment, on a des rapports particuliers avec les auteurs, vous le savez, et Mathieu Riboulet fait partie de cela, vraiment une gentillesse, une écoute et en même temps une puissance d'écriture. Je pense au livre qu'il a réalisé, Prendre date, avec Patrick Boucheron. Ouais. Patrick Boucheron qui sera à Manosque aussi, ce grand historien. Ils avaient écrit ce livre au lendemain des attentats, de l'attentat de Charlie Hebdo. Ces quelques jours qui ont changé la vision de la France, qui ont changé la vision de la démocratie, et voire de la presse aussi, avec cet attentat. Et c'est magnifique, c'est une discussion entre ces deux personnages qui n'ont pas normalement vocation à traiter de l'actualité, un auteur et un historien, et qui prennent date dans ce tout petit opuscule, et c'est magnifique. Patrick Boucheron, que j'avais reçu ici même avec Éric Vuillard aussi, ce sont des grands moments. Notre radio aussi vit de très très grands moments avec des auteurs, avec des invités qui viennent. Et puis on a des complicités aussi, bien sûr, comme par exemple celle que nous développons depuis déjà plusieurs années avec l'association des amis de Jean Giono. Cette année, Jacques, pas d'effort particulier, toujours une présentation et une présence importante de l'association au sein des correspondances, mais il y a des gros projets qui arrivent dans les années qui viennent.
Oui, bah, cette année, il y a quand même d'abord l'ouverture du Paraïs, de plus en plus ouvert. Avec,
le Paraïs, c'est la maison
de Jean Giono, où on voit d'ailleurs, où on accueille souvent les écrivains. C'était le cas de Mathieu Riboulet quand il y avait eu la vente aux enchères fictives, et il faisait partie des acheteurs. Et tu parlais de Éric Vuillard, qui est devenu non seulement, qui est un grand admirateur de Giono, mais qui est devenu en plus un ami, et qui, avec qui on a des contacts très réguliers.
Prix Goncourt l'année dernière.
Oui, absolument. Et on va faire des choses autour de Giono ensemble à l'occasion du cinquantenaire, bien sûr, de la commémoration du cinquantenaire de la mort de Giono. Alors, il y a une nouveauté qui est une initiative qu'on assume en partie, et qui est une initiative aussi du directeur du Centre culturel et littéraire Jean Giono, Frédéric Martos, qui est de proposer des visites thématiques du Paraïs. Alors il y aura Giono et la musique, Giono et la peinture, et j'en assure deux, c'est Giono dans sa bibliothèque, donc une visite guidée de la bibliothèque, et Giono et le pacifisme dimanche matin. Voilà. Et puis on continue notre exploration de la correspondance de Giono sous forme de lecture, et je dois dire que c'est très bien annoncé cette année. avec un succès dont j'étais le premier surpris, parce que c'est vrai que nous on est monté dans le train des correspondances qu'à partir de 2012. Bon, il y avait des raisons historiques qui faisaient que, peut-être, bon. En tout cas, c'était notre grand désir de le faire, et on a constaté que ça marchait bien, que le samedi matin était un bon moment, un peu moins chargé en événements, et qu'il y avait un grand plaisir des spectateurs à venir écouter pendant une heure et quart, ces lectures de correspondances de Giono, qui est un grand épistolier. Alors, j'ai dit grand épistolier, Jeannot a écrit, j'estime maintenant, au moins 50 000 lettres. Donc, ça fait certainement le plus grand épistolier de tous les écrivains de son temps. Sauf que il y en a au moins 35 000 qui ressemblent plutôt à ce qu'on appelle des mails aujourd'hui. et qui donc ne peuvent pas vraiment faire l'objet de lecture. C'était difficile parce que je sais pas s'il l'a gardé. Evelyne Pravidlo m'a demandé de sélectionner, de lui envoyer quelques lettres de Jeannot pour la lecture de ce soir, Jacques Gamblin. Je sais pas s'il en a retenu, mais c'est difficile de sortir une lettre de son contexte. Il n'y a pas des grands morceaux de bravoure comme chez certains écrivains où on a des lettres tout d'un coup qui partent de... Non, Jeannot est pas du tout... il disait qu'il n'aimait pas écrire des lettres, mais je n'ai pas en écrit beaucoup. Mais on a surtout des rapports avec des grands correspondants. Alors on a inauguré avec Gide Jeannot, évidemment, c'était prestigieux en 2012. Et puis il y a eu Henri Miller, là c'est une très très belle correspondance. Et puis là, on est toujours sur la thématique de la bibliothèque, puisque quand même, on continue à célébrer notre acquisition, puisqu'on a, l'association a fait l'acquisition de la bibliothèque et du mobilier de Jean Giono au mois d'octobre l'année dernière, l'acquisition définitive. Et donc là, on a une correspondance tout à fait originale, et qui est peut-être la plus littéraire de Giono, parce que c'est les lettres qu'il a échangées avec un autre écrivain qui s'appelait Henri Paulès, qui est beaucoup moins connu, qui pour gagner sa vie s'était fait courtier en livres dépareillés surtout, et en édition absolument introuvable, et il alimentait comme ça Max Jacob, Jouandeau et d'autres, mais avec Jeannot ça a duré pendant 30 ans, et on a leur correspondance. Et là, il parle non seulement des livres à acheter et où Paulès lui trouve, lui dit est-ce que ça vous intéresse, mais surtout il y a les commentaires de Jeannot sur ces livres, et alors là on sait pourquoi, comment, quand, et surtout on voit ce que ça peut devenir ou ce que ça va devenir dans l'œuvre. Donc c'est une correspondance tout à fait passionnante dont on a commencé l'édition dans la dernière revue Jeannot. Et ça va continuer parce qu'elle est énorme. Surtout sur les deux dernières années de la vie de Jeannot, enfin 68-70, 68-69 surtout, où là, alors, ça développe beaucoup autour, par exemple, de sa passion pour les littératures asiatiques, en particulier chinoises. Donc, on découvre aussi tout un aspect très méconnu de Jeannot. Évidemment, quand on nous dit l'écrivain provençal, lui, il serait volontiers dit écrivain mandarin. D'ailleurs, il y a un dictionnaire de mandarin et on apprend l'histoire de l'acquisition du dictionnaire de mandarin, et sur ses lettres, il reproduit des sinogrammes, etc. Bon.
On en apprend tout le temps.
Oui, oui. C'est incroyable. Bah oui, c'est un véritable continent, heureusement, parce que sinon, il y a longtemps qu'on aurait arrêté.
Jacques, dans deux ans, et effectivement, Jeannot nous a quittés en octobre 1970, et dans deux ans, donc, on va commémorer le cinquantenaire de sa disparition. Vous avez prévu une grosse affaire. On peut en parler ?
Ou on peut commencer à en parler, puisque de toute façon, il y a des choses qui sont déjà en chantier. Hein. Et d'ailleurs, je vais recevoir là dans deux jours, pendant les correspondances, non seulement Emmanuel Lambert, qui est écrivain et qui est la commissaire de l'exposition, dont je suis le commissaire associé comme conseiller scientifique, et elle vient avec une plasticienne qui va... inventer la manière dont on va présenter une partie de la bibliothèque de Jeannot, environ 100 livres que j'ai choisis et dont on va discuter, et comment ça va être présenté dans le cadre de la grande exposition qui commence au MUCEM le 29 octobre de l'année prochaine.
Le MUCEM, rien que ça, c'est à Marseille.
Alors, ça va être une énorme exposition. Je peux dire avec certitude que ce sera la plus grande jamais faite, et peut-être à jamais. C'est-à-dire qu'on va avoir là quelque chose qu'on n'a jamais vu et qu'on ne reverra peut-être sûrement plus, puisque ne serait-ce que parce qu'il y aura la quasi-totalité des manuscrits de Jeannot qui sera exposée. Ce qui représente, je crois, 35 ou 36 postes. Donc, y compris les manuscrits qui n'appartiennent plus à la famille. Il y en a d'ailleurs un, Le Champ du Monde, qui passe en vente dans quelques jours. Je ne sais pas, j'arrive pas à trouver le moyen de mettre la main dessus, parce que ça va sans doute se vendre assez cher. Et que, bon, voilà. Alors, j'alerte en ce moment les bibliothèques, etc. pour, voilà. Donc, et puis, ça va être après tout à développer, ici, bien sûr, sur place, mais aussi sur le plan national, international. Ça se terminera par un colloque à la Bibliothèque nationale à Paris, à Tolbiac. Mais il y a aussi un projet à New York, avec notre ami Edmund White, puisque ce sera la parution du quatrième roman inédit de Giono, traduit aux États-Unis grâce à Edmund White. Et donc, on imagine de faire que ce sera Les Grands Chemins, après Un Roi sans divertissement qui doit sortir cette année à New York. Ça marche bien. Les Américains sont en train de redécouvrir Giono à travers cette initiative. Et on essaye d'imaginer quelque chose à l'Albertine, hein, la librairie centre culturel new-yorkais. Peut-être en emmenant Marie-Christine Barrault, qui est très connue là-bas, qui a une lecture toute prête de Pour saluer Melville, et qui m'a dit « Je suis avec toi
!» C'est voilà. À suivre, donc.
Et il y aura des événements manosquins, il y aura des événements régionaux et nationaux. On est en train de réfléchir si on va faire des rencontres de Chaminadour avec Éric Vuillard autour de Giono. Donc voilà. Et là, c'était justement Mathieu Riboulet et Jean Genet qui viennent de se terminer la semaine dernière. Donc voilà, ça boue en ce moment. Ça, oui. Et puis j'imagine qu'on fera quelque chose ensemble.
Évidemment. C'est une belle activité en préparation. Et puis on est très attentif aussi, vous le savez, au devenir du Paraïs, puisqu'il y a une manière de fonctionner qui va se mettre en place, puisque le Paraïs est maintenant propriété municipale.
Oui, on est en plein dans la transition, dans le chantier. C'est pas tous les jours simple, mais enfin, on va y arriver.
Et puis on va attendre aussi 2020 avec cette manifestation au MUCEM. À Marseille, qu'on attend et qu'on ira visiter aussi avec grand intérêt. Olivier Chaudançon, juste une précision. Tout à l'heure, vous avez parlé du spectacle. On a parlé du spectacle en l'absence de Mathieu Riboulet. On va signaler quand même les personnages qui sont avec lui, les personnalités qui sont là, car c'est assez surprenant. Barbara Carlotti, vous l'avez dit. Pauline Jambé, d'accord. Maïlys de Kerangal qui viendra prêter sa voix aussi, et puis Juliette Armanet aussi qu'on voit dans d'autres choses que dans la littérature. Donc là il y a aussi un bon point, et tout ça avec Gwenaël Aubry aussi qui sera présente. Non, Juliette Armanet, elle est présente dans...
Alors Juliette Armanet, c'est la veille, c'est jeudi soir à 22h45, c'est un concert littéraire qui se nomme Correspondance amoureuse et qui va mettre en regard des chansons, notamment celle de Juliette Armanet, mais aussi quelques-unes de Barbara Carlotti, et puis des textes dits par Pauline Jambet. Enfin voilà, il y a de quoi se tromper, parce qu'il y a beaucoup de circulation à l'intérieur des correspondances.
Et c'est bien, parce que les artistes sortent un peu de leurs frontières habituelles, et ça c'est une bonne chose, des correspondances.
Ah mais on les y oblige, c'est la règle.
Je sais, et je me souviens d'une Clarica, nous ayant fait visiter sa bibliothèque, c'était une soirée croustillante aussi, c'était une bonne chose. Vos propres coups de cœur, Olivier Chaudançon, sur les romans qui sont parus pour cette rentrée?
Question que j'essaie toujours d'éviter parce qu'évidemment, on a envie de défendre toute la programmation. Mais bon, cela étant dit, je vais citer deux auteurs que je ne connaissais pas ou peu. Donc voilà, je me suis fait saisir avec d'autant plus de surprise que je ne m'y attendais pas. Nicolas Mathieu. Ça s'appelle « Leurs enfants après eux », c'est publié chez Actes Sud, c'est un deuxième roman, je n'avais donc pas lu le premier, je suis rentré dans ce livre et dès la moitié de la première page, j'ai été totalement attrapé, saisi, et je ne l'ai pas lâché, ça doit faire 400 bonnes pages, c'est d'une justesse éblouissante, ça se passe dans une de ces vallées de l'Est... dont la métallurgie a disparu, donc ça laisse des cicatrices visibles dans le paysage, visibles dans le tissu social. On suit des jeunes sur 4-5 ans, de 15 ans à 20 ans, donc des destins comme ça qui se croisent. Certains vont rester dans la vallée, d'autres vont partir. Et à partir de cette façon d'ausculter ce tout petit bout de territoire dans un passé qui nous est relativement proche, ça se passe dans les années 90... Il nous dit de façon sidérante le monde contemporain, ce qui s'y passe, les frustrations, les possibilités. Enfin voilà, c'est un roman qui regarde avec une loupe un endroit et qui nous dit l'infini possibilité du monde. Voilà, je trouve que tous les personnages sont
justes. Il y a de la violence aussi dans le roman.
Mais il y a de la violence comme il y en a dans la vie. Il y a de l'amour, de la tendresse, des amours déçus, des amours épanouis. Il y a absolument tout. Voilà, il est absolument magnifique ce livre. Leurs enfants après eux.
Et on peut dire aussi après eux, leurs enfants après eux, etc. etc.
On peut en faire une sorte de mantra.
Une ronde qui peut se créer. Olivier, un autre coup de cœur peut-être?
Alors un autre, ça c'est une auteure que je connaissais un peu, mais ce livre m'a particulièrement plu parce qu'il est d'une singularité totale. C'est Emmanuel Bayamaktam, ça se nomme Arcadie. Une drôle de communauté retirée dans une montagne du sud qui pourrait être un peu quelque part au large de Manosque, on va dire, des gens tous avec leur bizarrerie, singularité, qui préfèrent se retirer du monde contemporain, notamment parce que toutes ces ondes, cet électromagnétisme les rend un peu sensibles et ils ont envie de s'isoler. Alors ils font une communauté libertaire, à tous les sens du terme, et c'est une sorte de réserve de monstres, enfin je dis monstres avec bienveillance, mais ils sont tous très très bizarres, ils vivent entre eux, et puis le monde contemporain va faire irruption dans cette drôle de communauté à travers la figure d'un migrant qui vient chaparder la nourriture, la nuit, etc. La suite de ce fil-là est impossible à raconter, simplement, ça ne ressemble à rien d'autre, ça dit aussi le monde contemporain à travers des paraboles, voilà, c'est remarquablement écrit. Emmanuel Bayamaktam, Arcadie.
Ok, on va suivre vos conseils. Olivier, on n'a pas parlé aussi d'un élément important, c'est-à-dire vos rapports avec la médiathèque d'Herbès et notamment le comité de lecture, avec cette invention incroyable qu'est le labo de l'édition, qui est encore remis à jour cette année. Et puis je voudrais qu'on dise quelques mots aussi sur les résidences d'auteurs et d'illustrateurs, avec cette année plusieurs anciens résidents qui seront là, dont par exemple Alice Zénitaire.
Oui, alors pour les 20 ans, c'est vrai que ceux qui sont le plus familiers de Manosque, on avait vraiment envie qu'ils soient avec nous. Donc, à la fois des auteurs qu'on invite régulièrement et qui ont été cités comme Aïlis de Carondial et d'autres. Et puis, nos résidents, parce que c'est des gens qui ont passé des mois à Manosque, qui ont vraiment tissé des relations, qui en ont gardé des souvenirs forts, qui ont écrit des œuvres ici. Et alors, ceux qui écrivaient un livre pour cette rentrée, il était facile de les inviter. Mais les autres, qu'est-ce qu'on va leur faire? Donc, on a essayé de leur trouver des rôles. On pourrait citer le bal littéraire des 20 ans qui se tiendra vendredi soir. Eh bien, il y a toujours 5 auteurs qui écrivent ce bal. On a intrigué pour que 2 d'entre eux soient des anciens résidents, à savoir Sylvain Prudhomme et Alice Zénitaire. On a cité rapidement le Live Magazine, on en reparlera sur cette antenne. Il y a là aussi des anciens résidents qui vont y participer. On a fait revenir Miguel Bonnefoy pour pas le quitter trop vite. Il y aura des anciens résidents au bar des correspondances, un autre qui fera le DJ. Enfin voilà, on leur a trouvé des rôles partout. Donc voilà, beaucoup de fonctions essentielles du festival seront tenues par des anciens résidents. Et puis on a une nouvelle résidente en perspective. Elle n'est pas là physiquement tout de suite parce qu'elle prépare un voyage au Japon, mais elle arrivera dès l'automne. Elle s'appelle Blandine Rinkel. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Ça, c'est pour les résidents qui seront un peu partout en ville. Et puis, François Beaune, tiens, voilà, je peux le citer, il repasse aussi. Et puis, Julien Delmer, ça me vient au fur et à mesure.
Ce sont chaque fois des personnalités qui ont marqué ici de leur
présence. Oui, je crois qu'on les reconnaît bien dans la rue.
Et les Manosquins les ont marqués aussi. Et ça, c'est une bonne chose.
Oui, il y a largement identification. Et puis, on a commencé avec la médiathèque d'Herbès et évidemment les apéros littéraires qui sont devenus une petite institution de matinée du festival à 11h. Au-delà des apéros habituels, c'est-à-dire des lectures à voix haute d'auteurs invités et puis ensuite un petit échange avec les auteurs invités, il y a aussi ce fameux labo de l'édition. Donc les membres du comité de lecture se mettent dans la peau d'un éditeur, on leur donne des manuscrits, on leur dit lisez et puis dites-nous ce qu'il faut faire. On édite ou on n'édite pas? Et si on publie, est-ce qu'il faut retravailler un peu le manuscrit? Dans quel sens, etc.? Et si on ne publie pas, quel argument donner à l'auteur?
Ça veut dire que les lecteurs donnent leur avis avant la publication?
Absolument. Et l'éditeur qui nous fournit ces manuscrits écoute avec attention ce qui est dit. Ça ne changera pas forcément son point de vue, mais c'est un échange extrêmement fructueux parce que, voilà, face à un texte non publié, on se pose des questions et c'est le cœur du travail d'édition. Alors, on a fait ce labo de l'édition plusieurs années de suite avec Benoît Viro et le nouvel Attila. Et puis maintenant, on passe à un nouvel éditeur, talentueux aussi, les éditions du Chemin de Fer, qui travaille notamment sur des textes avec des illustrations en regard, mais pas que. Voilà, donc on va avoir cet exercice-là qui se prolonge. Je ne crois pas me tromper, je dis ça de mémoire, mais je crois que c'est demain matin, jeudi.
Je vais vérifier ça.
Heures,
vous savez que nous, on vérifie, d'autant plus que vous venez de parler du chemin de fer, c'est les choses que les journalistes connaissent bien aussi. Donc, le labo de l'édition, c'est bien demain, place d'Herbès, à 11h. Bravo, Olivier. C'était une bonne mémoire. Parfait. Aujourd'hui, donc, 14h30 déjà, c'est la première sieste littéraire de nos amis les siestards, Bastien Lallemand et puis ses amis qui sont là. C'est toujours des moments forts que vous avez été obligés de rendre payants parce que quelques frustrations pour les personnes qui n'arrivaient pas à entrer. Des siestes littéraires pendant 4 jours, c'est ça Olivier ?
5 jours. On commence aujourd'hui, on termine dimanche inclus. Payant pour la bonne cause, hein, payant oui, 5 euros, c'est fait. Pas méchant. Ouais. Simplement, on était ennuyés de voir chaque année des gens qui descendaient à la petite salle du théâtre Jean Le Bleu et qui se cassaient le nez parce que c'était déjà plein. Donc ça devenait absurde. Ils arrivaient 1 heure à l'avance, 1h30 à l'avance. Et puis certains qui avaient patienté aussi longtemps que ça, malgré tout, ne pouvaient pas rentrer. Donc on s'est dit qu'en mettant une toute petite tarification, il ne s'agit pas d'éliminer par cette dimension financière, mais de permettre une réservation ferme et définitive. Donc voilà, on a son billet, on peut y aller, on l'a pas, c'est inutile de faire la queue et on peut chercher d'autres rencontres. Voilà, c'est vraiment technique.
Et pour le reste, c'est une manifestation en plus superbe parce que bon, c'est jamais pareil. On va dire qu'il y a un noyau dur de musiciens, JP Nataf, Maëva Lebert et bien sûr Bastien Lallemand. Et puis il y a d'autres musiciens qui viennent se greffer et les auteurs qui viennent à Manosque, qui viendront lire un texte ou deux s'ils ont envie.
Oui, mais je crois me souvenir d'ailleurs aujourd'hui que c'est alors un auteur qui est très très lié à Manosque puisqu'il fait partie de l'équipe d'organisation, c'est Arnaud Catherine, et puis une auteure mexicaine, Aura Xilonen, qui a été invitée à l'initiative de la médiathèque d'Herbès, et on s'en réjouit parce qu'elle est formidable et on l'a pris sous notre aile également des correspondances. Elle
et
sera
vous,
là.
Et vous savez quoi? On l'aura ici en plateau demain.
Ah, ben Aura Xilonen,
elle a écrit un livre Gabacho qui est magnifique avec un style surprenant pour une jeune femme de 20 ans, 22 ans, quoi.
Et j'ajoute aussi qu'on a un invité spécial de la sieste, en tout cas de cette sieste de début de festival, c'est Charles Berberian, qui est dessinateur, et évidemment on le sait, c'est lui qui a fait l'affiche du festival. Il a fait une belle exposition au Bar des Correspondances, là au Théâtre Jean Le Bleu. Il a fait la couverture de notre livre des 20 ans, Une nuit à Manosque. Mais c'est aussi un très bon musicien. Donc on aura Charles Berberian à la guitare et au chant.
Vous savez quoi? Il est aussi invité sur notre plateau demain.
on est fait pour s'entendre.
Incroyable, tout à fait. On s'entend bien depuis déjà pas mal d'années. L'inauguration officielle tout à l'heure, 17h.
17h.
17h avec les huiles qui seront là, hein, comme d'habitude. Donc il y aura certainement des personnalités et puis évidemment les financeurs des correspondances sans argent public, vous ne pourriez pas exister.
Non, c'est impossible parce que contrairement à la musique qui peut générer des recettes de billetterie relativement conséquentes, la littérature ne peut pas le faire et puis c'est pas le projet. On a envie quand même que ce soit le plus hospitalier possible. Alors certes, il y a des éléments qui sont payants le soir, mais je pense qu'ils sont assez peu chers et assez peu éliminatoires pour les gens. On regardait d'ailleurs, je crois que les prix n'ont quasiment pas bougé en 20 ans. On est d'une stabilité qui défierait toute notion d'inflation.
C'est bien, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ça pourrait servir de leçon aux économistes, mais bon, c'est autre chose. La 21e édition, elle est déjà en préparation, Olivier ?
Oui, ouais. comme à chaque fois, parce que on a toutes sortes d'envies, de contacts artistiques, et puis voilà, il y en a un qui nous dit « Ah mais non, mais cette année en septembre, je suis au Japon, je peux pas, mais l'année prochaine, c'est premier juré, etc. » Donc voilà, il y a déjà une petite liste de projets qui sont validé pour l'année prochaine, mais bon, il est un peu prématuré d'en parler. Faisons ces 20 ans et puis voilà.
Et puis vivons les correspondances également au jour le jour sur Fréquence Mistral. Tous les jours à 11h, on aura le plaisir et le bonheur de recevoir ici même Olivier Adam qui a fait partie de votre équipe, Olivier, avant d'être le grand auteur reconnu que nous connaissons.
Ah bah, il a fait plus que partie de l'équipe, on a vraiment créé le festival ensemble.
Exactement, enfin, voilà, exactement. Donc il nous rappellera tout ça et puis on aura aussi le plaisir d'accueillir Alice Zénitaire et d'autres auteurs ici même. Merci encore Olivier, à tout à l'heure pour l'inauguration des correspondances sur les places de Manosque. Merci aussi Jacques Méni, à bientôt, nous on se voit régulièrement à Manosque, évidemment, et pour parler de ce personnage incroyable qu'est Jean Giono, et on en apprend tous les jours, et aujourd'hui je viens encore d'apprendre des choses sur Jean Giono, c'est une belle chose. Et puis merci et bravo aussi à François-Xavier Emery. Une exposition qui est visible jusqu'à quand, François?
15 octobre, je crois.
Jusqu'au 15 octobre.
Je crois, donc, parce que j'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est jusqu'au 15 octobre.
Si vous n'avez pas la possibilité d'aller au Centre Giono voir cette expo pendant les correspondances, parce que vous voulez suivre les correspondances, vous pourrez le faire après. Donc, c'est une bonne chose. Merci à tous les trois. Bon merci. Festival. À très bientôt. Et puis, merci aussi, bien sûr, à l'ami James qui est à la régie. On se retrouve demain. Demain, j'aurai le plaisir d'accueillir, comme je l'ai dit tout à l'heure, Aura Xilonen, avec une traductrice qui viendra de la Casa Latina à Manosque. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir Iliana Ristova de la médiathèque qui est en charge de la résidence d'Aura Xilonen dans les médiathèques de la DLVA. Également Serge Renko qui nous parlera en l'absence de Mathieu Riboulet, Charles Berberian aussi, et Caroline Vidal et Bernadette Résimon qui sont des comédiennes. Merci James, bonne journée à tous et puis bon festival.
Merci François et bon festival.